Avant la prière, lisons de Romains chapitre 12, du verset 9, dès le verset 9. Romains chapitre 12, le verset 9. Que l'amour soit sincère, sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Dans l'amour fraternel, les uns pour les autres, ayez un cœur particulièrement aimable, disponible et serviable, dans l'honneur et le respect que l'un précède l'autre. Ne vous découragez pas là où le zèle est nécessaire. Soyez ardents d'esprit, prêts à servir le Seigneur. Maintenant le verset 12. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la souffrance, persévérants dans la prière. Jusqu'ici, cette précieuse parole de Dieu. J'aurais préféré encore relire ces versets pour qu'ils puissent profondément être gravés dans nos cœurs, que l'Esprit de Dieu aujourd'hui, cet après-midi, puisse le faire. Qu'il puisse graver ces paroles de l'Écriture dans nos cœurs et qu'elles deviennent une réalité dans ta vie et dans ma vie, opérée par l'Esprit de Dieu. Que ce ne soit pas seulement des paroles, et pas seulement cette parole, mais que chaque parole des Écritures devienne un témoignage vivant dans ta vie et dans ma vie. Que nous puissions être une lettre lue de tous les hommes. Que l'amour soit sincère, sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Dans l'amour fraternel les uns pour les autres, ayez un cœur particulièrement aimable, disponible et serviable. Dans l'honneur et le respect que l'un précède l'autre. Ne vous découragez pas là où le zèle est nécessaire. Soyez ardents d'esprit, prêt à servir le Seigneur. Et pour le témoignage que je vais rendre ici aujourd'hui, je voudrais souligner ce 12e verset de Romains 12 et aussi les derniers versets du chapitre 11 de Romains. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la souffrance, persévérant dans la prière. De Romains chapitre 11, dès le verset 33. Oh, quelle profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Comme ses jugements sont incompréhensibles et ses voies sont insondables. Le verset 34, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ou qui lui a donné le premier quelque chose pour qu'il ait à recevoir en retour une récompense. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire éternellement.
Amen.
Levons-nous pour la prière. Nous voulons prier ensemble. Père Céleste, je te remercie pour le grand privilège que j'ai de pouvoir aujourd'hui être ici, me tenir en cet endroit pour rendre ce témoignage à ton peuple concernant ce que tu as fait. Je te demande que tu puisses m'accorder la force physique pendant ces minutes et bénis-nous dans ce service. Conduis-nous et rapproche-nous de toi et unis-nous et lie-nous les uns avec les autres. Que tel que nous l'avons chanté, ton esprit, plus rien soit en obstacle à ton esprit, que le moi et tout le propre vouloir et le faire soit enseveli, enterré, que avec toi nous puissions ressusciter pour marcher en nouveauté de vie, dans une vie, dans l'Esprit de Dieu, une vie divine avec toi. Ôte tout de nous qui t'a attristé, qui pourrait être un obstacle pour t'empêcher d'être parmi nous cet après-midi. Oh Seigneur, je te demande ta présence. Accorde-moi les paroles que je dois en cet endroit, pour l'honneur de ton nom, exprimer, dire. Je te le demande dans le saint nom de Jésus. Amen.
Amen.
De tout mon cœur, du fond de mon cœur, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous salue, vous tous qui êtes ici présents et tous ceux qui écouteront cette cassette. Je vous salue tous dans le précieux et saint nom de notre Seigneur, du Seigneur. Particulièrement tous ceux qui aujourd'hui, éventuellement, sont ici pour, devraient être ici peut-être pour la première fois. Je voudrais très chaleureusement vous saluer, vous souhaiter la bienvenue et vous souhaiter les riches bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. Aujourd'hui, je peux que rendre un bref témoignage. Et ensuite, je vais devoir m'asseoir. Je vais être obligé de m'asseoir parce que corporellement, je suis très faible. C'est seulement ce vendredi après-midi, que j'ai été renvoyé de l'hôpital dans lequel, avec la malaria, j'avais été livré le 1er janvier avec embolie pulmonaire due au paludisme, avec un foie noir comme du charbon, une rate qui était 3 fois plus grosse que la normale, et avec différentes autres complications, avec empoisonnement du sang. Le sang était bleu foncé. Dans cet état, on m'a amené donc à l'hôpital le 1er janvier. Je suis revenu de l'Afrique de l'Ouest, du Ghana, avec une malaria, un paludisme, sans savoir ce que c'est, et ou bien ce que cela a comme conséquence. J'ai seulement pensé que c'était une grippe, et que j'ai attrapé froid. Et donc je suis même le mois dernier, vous savez, je suis venu malgré tout à Zurich le 1er décembre dernier. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis un peu allongé, couché et un peu reposé. J'ai jamais été malade dans ma vie, vous savez. Mais je savais, j'ai jamais su ce que cela c'est d'être malade. Et subitement, c'était arrivé à ce point que j'avais plus de 40 degrés de fièvre et ça allait même vers 41. Et mes frères m'ont dit, tu dois aller à l'hôpital. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai entendu comment est-ce que les médecins se disaient l'un l'autre, c'est trop tard. Et l'un disait à l'autre, test du sang apporté et les matériaux, transfusion sanguine, etc. Donc, ils essayaient plusieurs choses. Mais dans mon cœur, c'était ne pas accepter de transfusion sanguine. Si Dieu veut me conserver en vie de sa manière, ce sera de sa manière, mais pas de la manière humaine. Je crois à la transfusion sanguine, mais je ne croyais pas que moi, je devrais la recevoir. Cela est à chacun de décider pour lui. Mes deux frères dans la chair sont restés à l'hôpital et voulaient se mettre directement à ma disposition. Si je veux rentrer dans les détails de ces 3 ou 4 jours où j'ai été hospitalisé, ça va aller trop loin. La première nuit, c'est le frère Rousse qui a veillé. Mon frère qui est aujourd'hui avec moi aujourd'hui ici, mon frère Rousse avec qui presque 30 ans nous sommes une île de manière la plus profonde et travaillons ensemble dans le royaume de Dieu. Il vous parlera tout à l'heure. La deuxième nuit, c'est le frère Schmidt qui a veillé. La troisième nuit, mon jeune frère Helmut. Et la quatrième nuit, mon grand frère Arthur. Frère Arthur. Et je dois dire que dans ces jours, dans les heures de la mort, je vais tout de suite vous raconter. J'ai reçu la mort. J'ai vécu, pardon, la mort. J'ai traversé le Jourdain, ce Jourdain. J'ai vécu la mort. Et vous allez entendre quelle grâce Dieu m'a accordée par tout cela. Après le premier examen, après que tout ait été constaté et que tout espoir avait disparu, mon grand frère est rentré dans la chambre dans laquelle j'étais couché seul à l'hôpital et j'entendais ses paroles. Il disait, Jésus-Christ n'a pas seulement triomphé à Golgotha, Jésus-Christ a triomphé ici dans cette chambre. Quelque chose d'autre ne sera pas possible. Je ne pouvais plus parler, mais j'ai bien entendu ce qu'il a dit. J'ai subi donc le prochain examen et j'entendais quelqu'un mourir à côté de moi. Et cela, il faut l'avoir vécu d'entendre un incroyant mourir. Cela vous va jusqu'à dans les entrailles. Et je vous dis que cela m'a traversé. J'écoutais ses cris. Et je vous disais, cela me traversait. Il criait. Mais dans mon cœur, il y avait une assurance que je vais auprès du Seigneur. Et s'il y a une assurance à 1000%, alors je l'avais. J'avais pas une seule pensée et pas une seule fois j'ai exprimé cette phrase, conserve-moi en vie, Seigneur. Je voulais aller à la maison dans la gloire à mon Seigneur. C'était le seul souhait que j'avais. C'est vrai, avant que je l'oublie, je voudrais le dire que pas un seul moment j'avais des douleurs. Pas un seul moment, pas un seul. Je perdais connaissance, perdais mes forces, je tombais, je m'évanouissais, je tombais, etc. Mais tout ça était là, mais pas un seul moment j'ai eu des douleurs d'une quelconque manière. Mais ensuite, quand j'ai entendu ce mort dans ses derniers mouvements et attendais de subir d'autres examens, avec d'autres examens, j'attendais de qu'on m'appelle. Alors cette pensée, bien sûr, m'est venue. Ton heure peut maintenant aussi sonner. Je ne pouvais plus parler, mais je l'ai dit comme ça, en moi, j'ai prononcé ces paroles en moi. Seigneur, comment je suis devant toi? Et à la seconde, j'ai été pris de mon corps et je me suis retrouvé dans l'enlèvement. Mon corps était changé. J'étais jeune et je voyais l'enlèvement et j'en prenais part. J'ai vu comment est-ce que ce troupeau, le troupeau racheté, fut pris et montait par l'air, dans l'air. C'était un spectacle comme le lever du jour, pas l'aube rouge, mais dans une lumière jaunâtre brillante. Et j'étais dans cette expérience complètement à gauche et j'ai pu regarder à droite et je vis la troupe rachetée qui est enlevée, étant enlevée. J'ai vu la troupe en train d'être enlevée. Bien aimés frères et sœurs, la joie qui m'a envahi, aucun homme peut la mesurer. J'ai encore regardé par-dessus la troupe, tous habillés en blanc. Tous étaient jeunes. Mais chacun avait la couleur de ses propres cheveux. Et c'était un spectacle assez particulier. Cela a fait la nuance dans tout cela. Les uns avaient une chevelure blonde, les autres noire. La couleur des cheveux était telle que chacun l'a eu sur terre. Mais tous habillés en blanc, montant, tenant les bras et les pieds en bas. Pas comme une fusée, mais doucement monté. Donc, montant doucement. Et subitement, j'ai regardé devant et j'ai vu une lumière qu'on n'a jamais vue sur terre et qu'on ne peut pas voir non plus. Et j'ai vu la ligne de démarcation entre le domaine de l'air et la lumière de la gloire qui y est pratiquement assise. Donc, qui est directement sur cette ligne de séparation, de démarcation. C'était précisément la section qui appartient encore probablement au domaine terrestre et le lieu du passage direct à l'éternité dans la gloire. Horizontal, je peux entièrement le décrire. Donc, la décrire. On vient décrire ce lieu, le décrire. Et sur cette ligne tracée horizontalement, qui, comme je l'ai dit déjà, une lumière, mais un peu jaunâtre, comme le lever du jour, cette lumière qui venait d'en haut était assise sur cette ligne tracée horizontalement. Et je pensais simplement, quand j'arriverai à ce niveau, à cette ligne, je vais regarder en haut d'où vient la lumière. Et de nouveau, je me suis vu à droite. Et je regardais, et chacun se regardait, chaque visage était transfiguré. Personne ne riait, mais l'expression du visage avait plus que de la félicité, plus que de la joie, plus que de la béatitude. On ne peut pas le décrire. On ne peut pas le décrire. On ne peut pas décrire l'expression du visage. C'était une gloire comme jusqu'à maintenant. Je ne l'ai jamais vue. Et subitement, nous sommes arrivés à cette ligne, telle que je le disais justement, le lieu qui sépare le temps de l'éternité. Et j'ai regardé alors vers le haut, seulement un seul instant. Et j'ai vu la ville comme du cristal. Elle scintillait. Je ne sais pas si vous avez déjà observé de la neige fraîchement tombée. Je ne sais pas. La neige fraîchement tombée avec le soleil qui brille dessus directement. Comme, vous savez, comme elle scintille, c'est ainsi que la ville scintillait. Et j'ai vu la lumière qui descendait du point central comme d'une pyramide d'en haut. Ce n'était pas une ligne droite. La ligne était un peu courbée vers l'intérieur. J'ai vu ces choses clairement, telles que je vous vois ici assis devant moi. J'ai vu, j'ai essentiellement à l'avance autorisé, j'ai été autorisé à faire l'expérience du changement, de la sortie de mon corps, du changement, de l'enlèvement. En fait, je l'ai essentiellement, j'ai eu la grâce de l'expérimenter à l'avance. Je vous dis que ce qui s'est passé avec moi, je peux que seulement du fond de mon cœur remercier Dieu. Je ne sais pas à quel point l'enlèvement est éloigné ou rapproché, mais il y a une chose que je sais. Notre Seigneur revient bientôt. Et je sais depuis ce jour que je prendrai part à l'enlèvement. Quand il reviendra dans la nuée du ciel pour prendre les siens dans la gloire. Quelle grâce d'être croyant. Quel privilège de servir le Seigneur. Je voudrais déjà, à cause de cette expérience, avoir volontiers supporté tout et ne pas murmurer, mais de tout mon cœur seulement remercier Dieu de ce qu'il a avec nous de tels chemins. J'ai consumé ma vie au service de Dieu, nuit et jour. J'ai voyagé, je n'ai fait aucun cas de moi-même dans ces 15 ou 16 ans, de ma condition physique ou bien de moi, je n'ai fait aucun cas. J'ai donné le maximum dans le royaume de Dieu et je n'ai sûrement pas compris qu'à la longue, à ce rythme, le corps, un jour, peut s'épuiser et succomber. Et malgré tout, je remercie le Seigneur. Et s'il me guérit et me garde en vie, avec son aide, avec son secours, je vais continuer jusqu'à comme maintenant, car une seule âme est plus précieuse que le monde entier et le message que Dieu nous a confié est la parole de Dieu révélée pour ce temps. Et ce message nous révèle la volonté de Dieu. Ce n'est pas une interprétation humaine ou bien une explication humaine, mais c'est ainsi dit le Seigneur par sa parole et par son prophète. Que ce témoignage soit un nouveau commencement. Et je voudrais à vous tous qui m'avez soutenu dans les heures et les jours d'épreuve, de tout mon cœur, je voudrais, et de toute mon âme, je voudrais vous remercier. Comme déjà dit, j'aurais bien voulu avoir été repris dans la gloire. et être resté là-bas. Oh, quelle joie à chaque fois. Cela traverse le corps entier. Une joie qui ne peut pas être sur terre. Et je regardais toujours de nouveau par-dessus la troupe et je me réjouissais de voir la troupe des vainqueurs, des rachetés, qui a été enlevée ou bien alors qui sera enlevée. Chacun avec un visage transfiguré. Je regardais les uns les autres et ensuite je regardais vers le haut d'où venait la lumière. Et bientôt, cela deviendra une réalité pour tous. Alors que j'étais revenu dans mon corps, sur terre, et que je comprenais que je suis ici, j'ai pleuré amèrement. Mes larmes coulaient à droite et à gauche. Elles étaient chaudes, je les ressentais, mais quand j'ai entendu comment mes frères étaient en train de chercher la face de Dieu et de prier, il y a eu des appels téléphoniques de la Suisse, de beaucoup de pays, et des lettres, et que cela, la participation était là de chacun, que cela ait été exprimé au pas de tous ceux qui ont appris ce qui m'arrive. Et je voudrais ici aussi vous remercier, et cela du fond de mon cœur, de tout mon cœur. Et je pense que je le dis comme vous le pensez, j'exprime cette espérance que Dieu puisse accorder encore un temps ensemble de préparation, de bénédiction par sa grâce, jusqu'à que l'épouse soit telle que l'époux peut revenir pour la prendre avec joie à la maison. Une épouse sans tache, sans rides, une épouse liée, parfaitement liée dans l'amour divin de Dieu, lavée dans le sang de l'agneau et les vêtements sont blancs, plus blancs que la neige. Mes bien-aimés frères et sœurs, je l'ai dit, c'est seulement vendredi que je suis sorti de l'hôpital et tout le temps je suis resté allongé et dans mon corps, je suis encore très faible. Je dois maintenant m'asseoir, mais je vous remercie de ce que vous m'avez supporté aussi ainsi. Tel que je suis ici aujourd'hui, je voulais à tout prix être ici, parce que de tout mon cœur, je vous aime. Ça, je peux le dire devant la face de Dieu. Et alors que le frère Rousse entendait que je veux venir, il m'a dit, je ne te laisse pas seul. Je t'accompagne. Je viens avec toi. Oh, j'ai appris à connaître dans mes détresses, dans les jours de mes détresses, mes frères. Je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Oh, nous ne savons pas dans quel état par quelles épreuves nous passerons encore. Quelles heures sont encore prévues pour nous par Dieu. Mais nous voulons nous aimer de tout notre cœur, de tout notre être. Comme Paul pouvait dire, comme tes voies sont insondables, tes jugements incompréhensibles. Et Paul écrit dans Galates 4, en ce temps-là, malgré l'offense que mon état physique a dû vous causer, vous ne m'avez pas traité avec mépris ni rejeté avec dégoût. Mais vous m'avez reçu. Mais vous savez, ceux-là qui en trouvent un scandale, ce sont ceux qui ne marche pas dans l'amour, ne marche pas dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière, il n'y a pas en lui de scandale, il n'y a pas de scandale pour lui et aucune faute ou occasion de chute. Je vous dis, dans mes plus grandes détresses, j'ai appris à connaître l'amour de mes frères dans la chair et mes frères dans le Seigneur. Ça, je peux pas le dire à tous. J'ai appris à les estimer. Dieu nous a aimés, frères et sœurs, et cela en Jésus-Christ notre Seigneur. Que nous puissions aussi nous aimer les uns les autres du même amour. Que Dieu vous bénisse. Merci. Moi aussi, de ma part, je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur. C'est mon grand privilège d'être ici aujourd'hui parmi vous. Mon frère l'a déjà dit avec des larmes. Il a tout dit, ou bien alors peut-être qu'il n'a pas encore tout dit. Mais quoi que ce soit, tout doit servir à notre bien, concourir à notre bien. Et je veux dire, nous nous aimons les uns les autres. Si ce n'était pas ainsi, alors nous ne serions même pas des enfants de Dieu. Car il est écrit dans Jean, dans l'épître de Jean, dans la première épître au chapitre 3, que nous devons nous aimer les uns les autres. Ici, il est écrit dans 1 Jean 3, verset 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. » 1 Jean 3, verset 13, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. » Ça, c'est la parole de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère demeure de la mort. Et l'amour, bien mes frères et sœurs, n'est pas seulement en parole, en disant « je t'aime », mais il faut que cela ait lieu dans la pratique. Il faut que cela soit visible. Et c'est-à-dire quand cela est nécessaire. Et je peux que dire une chose, Dieu, dans ces derniers jours, nous a si puissamment liés les uns avec les autres dans le lien de son amour divin. Nous avons eu une telle unité de l'esprit comme jamais auparavant. Je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas me l'expliquer pourquoi. Peut-être que toi non plus. Mais Dieu ne fait aucune erreur. Il est resté toujours le même. Et il le reste jusqu'à la fin. Et nous sommes obligés de nous aimer les uns les autres. C'est une obligation. Nous, nous le devons. Le Seigneur Jésus lui-même disait à ses disciples, alors qu'il voulait partir, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et il dit même, « C'est par cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes vrais disciples. » L'a-t-il dit ?
Amen.
Vous savez, ce n'est pas seulement que nous fassions des paroles, je le répète encore une fois. Il faut que les choses arrivent à ce point où l'amour de Dieu agissent puissamment dans notre cœur, comme cet amour était dans notre Sauveur et Seigneur. En lui, il y avait un tel amour présent dans son cœur, à tel point qu'il a donné sa vie pour tous, pour les frères, pour nous aussi. Alors que nous, avant même que nous existions, il nous a aimés à tel point qu'il a donné sa vie pour nous. Avant même notre naissance. Et il faut aussi que dans ces jours, maintenant, si peut-être un frère passe par des problèmes, par des épreuves, ou bien une sœur, par des difficultés, ou bien un enfant de Dieu, que nous puissions nous occuper de la situation, à succomber, à ressentir, comme la Bible dit, que si un membre souffre, tous les membres foient. Qu'est-ce qu'ils font? Tous les membres souffrent. Et ça, c'est ainsi dans la réalité, bien mes frères et sœurs. Aussi dans nos jours, cela a été ainsi manifesté. Je peux que dire, j'ai souffert avec mon frère et j'ai ressenti avec lui. Et si j'avais pu, j'aurais fait plus. Si seulement je pouvais guérir, mais cela n'est pas en mon pouvoir, mais cela est laissé au Seigneur. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les choses sont arrivées ainsi, mais Dieu, Dieu qui sait toutes choses, il sait pourquoi. Et c'est peut-être raison que nous ne voulons pas murmurer, nous ne voulons pas non plus nous plaindre, mais nous voulons venir devant lui, devant sa face, et entièrement mettre notre confiance sur lui, en lui. Ça, c'est notre foi. Quoi qu'arrive, que des épreuves nous arrivent, des difficultés, mais nous regardons toujours au Seigneur. Nous regarderons toujours au Seigneur. Et nous savons qu'il est capable de faire passer son peuple par toutes ces choses. Il a toujours fait, mes frères et sœurs. Mais ce que nous avons à faire, c'est de mettre sa parole en pratique, de nous diriger d'après sa parole et d'être attentif à ce qu'il a à nous dire dans sa parole. Nous voyons qu'il nous a transmis sa parole. Et si Paul, par exemple, dit dans 2 Pierre, au chapitre 3, il dit ici, au verset 1, « Voici maintenant la deuxième lettre, bien-aimée, que je vous écris. » Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller en vous un esprit pur en rappelant ces choses à votre mémoire par cette mise en garde, afin que vous vous souveniez des paroles et restez attachés aux paroles que les saints prophètes ont prononcées autrefois et du commandement de notre Seigneur et Sauveur qui vous a été communiqué par vos apôtres. Ça, c'est quelque chose, ce sont des choses pour lesquelles l'apôtre Pierre a trouvé nécessaire d'en parler aux saints, à ses compatriotes, ou bien alors à ses frères ou à ses sœurs du temps d'autrefois. Il a voulu attirer leur attention là-dessus. Et je pense que aussi pour nous, dans ces jours, le commandement du Seigneur et la parole de Dieu à la est valable pour nous car nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes où Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et je pense que nous faisons bien d'être attentifs à la parole des prophètes et de nous souvenir et de rester attachés à ce qu'ils ont dit. Et qu'est-ce qui va arriver dans les derniers jours? Si nous nous souvenons de tout ce que les apôtres et les prophètes ont dit concernant les derniers jours, bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous souvenir de ces choses. Je pense que alors nous n'aurons pas besoin de nous étonner que nous allons devoir passer par beaucoup de difficultés et que plusieurs choses vont nous arriver, peut-être dans ta vie et dans ma vie, où nous allons pas apparaître à l'aise. Mais où peut-être nous penserons, mais pourquoi tout cela m'arrive? N'est-ce pas? J'ai servi mon Dieu. J'ai consacré toute ma vie à Dieu. J'ai, n'est-ce pas, exécuté tout ce que le Seigneur a attendu de moi. Pourquoi est-ce que cela m'arrive encore? Pourquoi tout cela m'arrive? Mais vous savez, bien-aimés frères et sœurs, dans ces derniers jours, déjà à Krefeld, je l'ai dit, dans l'église, aussi hier soir, je l'ai rappelé dans l'église, vous savez que tous les hommes de Dieu n'ont pas eu une vie facile. Ils ne sont pas passés sur des roses. Quand nous regardons les chemins et la vie de ces hommes de Dieu, quand nous observons dans les Saintes Écritures, par quoi est-ce qu'ils ont dû passer? Alors nous constatons qu'ils sont passés par beaucoup de détresse et de malheur. Par combien de douleurs, de souffrances et de faiblesses corporelles, et par combien de persécutions, par combien de souffrances ils ont dû passer, ou bien le mal qui leur a été fait, peut-être même par la dans leur propre famille, par leurs propres frères, ou bien les compatriotes de leur vivant là-bas, ou bien alors leurs prochains. Qu'est-ce qui n'a pas été fait aux prophètes et aux apôtres? Et nous ne devons pas nous étonner quand nous aussi nous passons par les mêmes épreuves. Si nous prenons par exemple le prophète Michée, je m'excuse, peut-être que dans Amos, il y a aussi plusieurs choses qui sont écrites, mais dans Michée, ici, il est dit, si nous lisons cette écriture ici dans Michée, Michée chapitre 7, verset 1, « Malheur à moi, car je suis comme la récolte des fruits. » Michée chapitre 7, verset 1, « Comme les glanes de la vendange, il ne reste pas un grain de raisin à manger. » Pas une vigue précoce à laquelle mon cœur aspire. Une figue. L'homme de bien a disparu du pays. Et il n'y a plus de sincérité parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Sur le mal, leurs mains sont mises pour l'exécuter avec empressement. Le prince exige et le juge est à son service pour être payé. Pour être payé. Le puissant profère ce qu'il convoite dans sa cupidité, puis il le tisse l'un, puis il le tisse l'un dans l'autre. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Mais le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne croyez pas un ami, ne vous fiez pas à votre intime devant celle qui est couchée en ton sein. Garde les portes de ta bouche. Car le fils méprise son père, la fille se rebelle contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Et les ennemis de chacun sont sa propre maison. Mais moi, je chercherai l'Éternel. J'attendrai le Dieu qui me secourt. Mon Dieu m'exaucera. Jusqu'ici, cette parole de Dieu. Je disais déjà tout à l'heure que nous n'avons rien à attendre de bon. Nous n'avons rien à n'avons rien de bon à rencontrer. Mais bien, mes frères et sœurs, le temps, la fin s'est rapprochée. Et nous savons que si Pierre ici attire notre attention là-dessus et nous a adressé ces paroles il y a 2000 ans d'ici, que nous devons faire attention à la parole prophétique et à la parole des apôtres et des prophètes. Donc, être attentif, vous savez. Les apôtres, en accord avec les prophètes, ont parlé. Et nous voyons dans ces jours que ces paroles-là des prophètes s'accomplissent. Nous voyons aussi le Seigneur Jésus lui-même se référer à cette parole. Si nous lisons dans Matthieu, le chapitre 10, au verset 35 et 36, et là, il se réfère à cette parole de Michée, du prophète Michée, chapitre 7. Et ici, il dit, dans Matthieu, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Matthieu 10, verset 36. Bien, frères et sœurs, nous savons que les Écritures ne font pas de vains discours, de discours vides. Le temps est sérieux. Le temps est mauvais. Et je voudrais encore dire quelque chose. Le malin essaiera de détruire les ennemis, justement ceux qui font confiance de tout leur cœur à Dieu. Il essaiera de les détruire. Il ne s'occupe pas des autres, mais justement ceux qui ont reçu la parole de l'heure. C'est justement eux qu'il persécute. Et c'est à eux qu'il veut rendre la vie difficile. Et il veut que l'œuvre de Dieu soit détruite. Mais d'un autre côté, je dois dire que l'œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme. Cette œuvre dans laquelle nous sommes est l'œuvre du Dieu vivant. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être que l'ennemi s'est réjoui autrefois alors qu'on a crucifié le Seigneur. Et il a peut-être dit « Amen, c'est fini avec lui. Je suis débarrassé de lui. » Mais c'est justement à ce moment-là que l'œuvre a commencé. C'est justement là que ça pouvait continuer et que la victoire a été apportée. Et je voudrais aussi dire, peut-être que dans ces jours, l'ennemi s'est réjoui déjà de ce qu'il pensait, que si le messager, le berger, de frapper le berger et l'esclave serviteur, il a dû penser, si je le détruis, tout ira bien. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous savons une chose, que Dieu a tout sous son contrôle et il fait comme il le veut. Pas comme je le veux, pas comme tu le veux, mais comme Dieu le veut. Et Dieu le permet. Et vous savez, c'est tellement merveilleux de ce que Dieu vraiment a son œuvre entre ses mains et que nous pouvons mettre notre confiance en lui. Et réellement, vous savez, ce qui compte, c'est que l'ennemi ne peut rien faire, le diable ne peut rien faire d'autre, si cela ne lui est pas permis. On a même lu ici, dans Michée 7, verset 5, « Ne te fie à personne, devant même la femme qui est couchée en ton sein, garde les portes de ta bouche. » C'est justement, bien-aimé, dans ces jours que le diable cherche à entrer dans les familles. Oui, c'est malheureusement comme ça, nous devons le dire, car ce n'est pas différent. Et il essaye de frapper ce qu'il peut. Oui ou bien non? C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Vous savez, la parole de Dieu ne peut pas mentir. Si c'est moi qui le dirais, alors peut-être que ce ne serait pas vrai. Mais nous avons lu dans la parole de Dieu que c'est le Seigneur qui nous le dit. Alors c'est oui et amen. Et si les prophètes l'ont déjà à l'avance vu, alors ils savaient de quoi ils parlaient. Car ils pouvaient le voir en vision, ils pouvaient le voir. Et le Seigneur Jésus lui-même s'est référé à cette parole. Il a encore une fois saisi et il voyait quel sérieux viendrait, quel jour viendrait, comment est-ce que tout allait prendre forme. Mais bien mes frères et sœurs, je vous pose la question aujourd'hui, dans quelle famille il n'y a pas de problème? Et dans quelle famille le diable n'essaie pas d'entrer? Je pense, personne ne serait là. Tu pourrais dire, moi, dans ma famille, rien n'est arrivé. Nous préférons pas le dire à haute voix. Parce que vous savez, il est un malin à 1000 tours. Et ça pourrait arriver au prochain jour, au prochain moment, qu'il pourrait entrer, si on pense que tout va bien. Mais que notre Dieu soit loué pour sa sainte et précieuse parole qui nous a été transmise et que nous devons faire attention et comme nous l'avons lu, mais moi je chercherai l'Éternel. Michée 7, verset 7. Ici, cet homme de Dieu le dit, alors que, n'est-ce pas, il a vu venir tout cela, comment est-ce que ce serait? Il a dit, mais moi, je chercherai l'Éternel. J'attendrai le Dieu qui me secourt. Vous savez, quand nous passons par de telles difficultés, nous n'avons pas autre chose à faire que de chercher l'Éternel et de nous attendre à lui et de bâtir sur lui et sur sa parole, car nous savons que sa parole est ferme au ciel. Croyons-nous cela? Elle est écrite, elle est ferme au ciel. C'est une parole merveilleuse. C'est écrit dans le psaume 119. Ici, il est écrit dans le psaume 119, verset 89. Pour toujours éternel, ta parole est ferme dans les cieux. Psaume 119, verset 49. Oh, est-ce que cela n'est pas merveilleux? Oui, cela est merveilleux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Mes frères et sœurs, il n'a pas seulement fondé le ciel et la terre, mais il a aussi fondé son église épouse. Et elle subsistera. Mes frères et sœurs, l'avons entendu? Il a été autorisé à notre frère de voir l'enlèvement. Et l'épouse subsistera. Quand? Jusqu'à qu'elle soit enlevée. Elle restera ferme jusqu'à l'enlèvement. Et après l'enlèvement, les jugements tomberont sur cette terre. Je voudrais, s'il vous plaît, aujourd'hui, cet après-midi, dire à tous, ne laissons pas tomber notre confiance, ne laissons pas tomber notre courage, ne laissons pas tomber notre foi, ne laissons pas tomber notre foi, mais restez ferme, demeurez ferme dans le Seigneur, bien-aimé. Restez attaché à la parole de Dieu fermement, tel que cet homme de Dieu ici l'exprime. Vous savez, ce sont des paroles d'encouragement. Et qu'arrive, quoi que ce soit, chacun de nous, nous aurons des difficultés différentes. L'un comme ça, l'autre comme ça, vous savez, le diable essaie chez chacun de manière différente. Mais il y a une chose qui doit être ferme dans notre cœur. Nous devons fixer nos regards sur le Seigneur. Justement, maintenant, dans ce temps. Dans ce temps mauvais et méchant. Et vous savez, qui m'aide, qui me secourt, comme nous l'avons lu dans Michée 7, au verset 7, « Mon Dieu m'exaucera !» Cette assurance doit être dans ta vie et dans ma vie. Elle doit être là. « Mon Dieu m'exaucera !» Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il nous a déjà exaucé. Et il continuera à le faire. Ce n'est pas possible autrement. Nous devrions. Comment est-ce qu'il ne devrait pas? Comment est-ce qu'il ne devrait pas? Il ne devrait pas nous exaucer. Et nous, il a déjà exaucé. Il a dit au temps favorable, je t'ai exaucé, je t'ai secouru. Regardez, quelle consolation a été accordée à mon bien-aimé frère. Peut-être que les hommes auront pensé, lui est enlevé, ou bien ceci et cela est enlevé. Vous savez, ce que les hommes méprisent, c'est ce que Dieu enlèvera. Il le conserve pour lui. Il le garde pour lui. C'est sa propriété. Vous savez, on peut si rapidement voir toutes les fautes des autres. Mais on ne voit pas ses propres fautes. On est déçu des autres, mais on n'a jamais été déçu de soi-même. Hein? On voit tout ce que les autres font de mal. Et on le voit tout de suite, on le constate tout de suite. On ne veut mépriser personne. Mais la Bible dit, qu'est-ce que toi tu vois la paille dans les yeux de ton frère? Mais tu ne peux pas voir la poutre dans ton propre œil. C'est ainsi, parfois. Mais bien-aimés frères et sœurs, je veux vous dire, nous ne voulons pas regarder à ces choses dans ces moments ou bien dans cette heure. Mais nous voulons regarder au Seigneur. Vous savez, tous, nous avons fait des erreurs dans notre vie, des fautes. Et nous en ferons encore assez, n'est-ce pas, des erreurs. Frère Branham, un grand homme de Dieu, il dit, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et j'en ferai encore beaucoup, il dit. C'est Frère Branham qui le dit. Mais vous savez, il savait en qui il croyait. Il savait en qui il restait attaché. Oh, vous savez, si nous sommes dans le combat, dans la bataille, il y a plusieurs choses qui pourraient peut-être nous arriver et nous atteindre, ou nous pourrons même être atteints et blessés. Nous sommes dans une guerre. Mais bien, mes frères, nous sommes ses élus, ceux qu'il a choisis. Oh, comme c'est glorieux, comme c'est précieux. Et toujours de nouveau, la parole de Dieu nous rappelle de persévérer. Nous avons tant de versets bibliques. J'ai encore regardé dans l'Apocalypse tout à l'heure, auparavant. Ça m'est venu dans la pensée, dans l'Apocalypse 21, alors que le frère Franck parlait de l'enlèvement. J'ai lu dans Apocalypse 21, à partir du verset 2, de la Nouvelle Jérusalem qui descendra. Oui. Et alors que frère Franck pleurait ici devant, il est dit ici, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de lamentation. Il n'y aura plus de douleur, car les premières choses ont disparu. Oui. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Apocalypse 21, verset 4. Vous savez, alors tout sera passé. Il n'y aura plus de deuil, plus de lamentation, plus de douleur. Il essuiera toutes larmes. Ici, nous pouvons peut-être marcher courbés et passer par beaucoup de difficultés. Mais alors, tout cela sera passé. Oui, tout sera fini, terminé. Alors, quelque chose de nouveau commencera. Pas quelque chose de nouveau, mais ici, il est écrit. Au verset 5, voici que je fais toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Alors, tout sera nouveau. Oui, mes frères et sœurs, ça, c'est la parole de Dieu. Et notre foi se repose dans ces paroles. C'est notre assurance, bien mes frères et sœurs. Et même si nos chemins sont parfois obscurs ici sur terre et que nous devons passer par beaucoup de difficultés, mais il y a une chose qui reste certaine. Après toutes ces douleurs profondes, après toutes ces souffrances, après toutes ces larmes, quelque chose de nouveau sera là pour nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Et il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Cela est écrit ici, toutes larmes de leurs yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Verset 4, Apocalypse 21. Mais bien, frères et sœurs, encore une fois, nous voulons le dire à tous. Cet après-midi, vous savez, ce n'est pas à comparer ces quelques jours de détresse dans lesquels nous vivons ici avec cette gloire qui nous attend. Non, mes frères et sœurs. Non, après ces quelques jours, le soleil brillera pour nous. Le soleil de Jésus-Christ. Oh, comme c'est glorieux de ce que nous pouvons porter cette assurance dans notre cœur et cette espérance vivante en nous. Est-ce qu'elle est dans ton cœur? Oui. Elle est là? Oh, comme c'est merveilleux. Oui, vous savez, cela nous unit ensemble, nous lie ensemble, cela nous joint ensemble, nous conduit ensemble, nous appartenons ensemble. Ce n'est pas comme ça par un hasard que nous sommes ici, que nous venons nous rassembler pour avoir un service et pour observer la parole de Dieu ensemble. Non, mais notre objectif, c'est d'être là-bas ensemble dans la gloire, pas seulement ici sur la terre. Et notre joie, c'est d'être là-bas et d'apparaître ensemble devant le Seigneur. Pas un moins ici et un plus là-bas, mais tous ensemble là-bas. Et nous voulons dire, nous voici, Seigneur, car tu nous as aimés ici, tu nous as nourris ici, tu nous as portés ici. Et hier soir, nous avons lu cette parole. Hier soir, je crois que c'était dans Jean 10. Le Seigneur connaît les siens. Et les siens le connaissent. Oui, c'est merveilleux. Vous savez, il nous connaît réellement. Et nous le connaissons aussi. Si nous l'avons rencontré, ou bien l'avons-nous rencontré ou pas? Avons-nous appris à le connaître? Oui, je crois que nous avons fait sa connaissance. Il s'est présenté à nous. Je veux vous dire quelque chose, bien aimé. Justement, dans de telles heures difficiles, nous apprenons encore mieux à connaître le Seigneur. N'est-ce pas? Oui, c'est ça qui est vrai. C'est pour cette raison qu'il permet les épreuves pour que nous puissions apprendre à mieux le connaître. Je vais vous dire, Dieu a fait de grandes choses à mon frère. Les médecins l'avaient abandonné, la médecine avait abandonné. Et tous sont morts qui ont eu cette maladie. Tous. Combien? 15 personnes qui étaient avant lui avec embolie pulmonaire sont tous morts. 15 personnes. Bien, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Dieu est encore le même. Il n'a pas changé. Il reste le même. Et nous sommes si heureux de ce que nous avons encore notre frère ici et que nous pouvons le saluer. Cela ne veut pas dire que nous suivons un homme, frères et sœurs, non. Mais nous devons nous aimer les uns les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez, nous devons nous aimer les uns les autres. Sincèrement, c'est ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et je veux vous dire, vous le lire pour que vous puissiez savoir que ce n'est pas moi qui le dis comme ça par cœur. Si je le trouve, Je crois que c'était Jean, j'avais reçu cette parole dans Jean. Si je le trouve, si je trouve cette parole. Bon, c'est pas grave, je vais pas le trouver, je vais pas trouver cette parole maintenant. Bon, c'est pas grave. Nous sommes obligés de nous obliger les uns les autres. Jean 13. Oui. Vous connaissez cette parole, n'est-ce pas? Vous pouvez lire Jean 13. Où le Seigneur nous dit de nous aimer comme lui, il nous a aimés. Comme il nous a aimés. Bien, frères et sœurs, de ce que nous pouvons nous aimer. Et nous devons nous aimer. Et nous devons cet amour. Et nous aimons. Vous savez que même si des gens disent qu'ils suivent un homme, ils le disent de nous. Alors moi, je vous pose la question, mais tout cela, ils suivent qui? Ils suivent qui? Ils suivent qui? Alors je veux dire encore, et poser la question. Je veux vous dire, nous ne suivons aucun homme. Peut-être qu'ils disent ceci, cela sur nous. Mais laissez-les dire ce qu'ils veulent. Nous savons ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. Et vous savez, la Bible dit et le Seigneur l'a commandé. Je vous l'ai déjà dit au commencement que nous devons nous aimer les uns les autres. Si ce n'était pas ainsi, alors le Seigneur n'aurait pas eu besoin de le dire. Mais il a dit et nous sommes reconnaissants de ce que maintenant nous pouvons être unis parfaitement ainsi les uns avec les autres et être dans un même esprit devant sa face rassemblée. Vous savez aussi, Jean, si nous voyons, connaissons bien les Écritures, vous savez que Jean aussi, dans ses jours, a fait la même chose. Il a dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, écouté, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et nos mains ont touché. C'est de la parole de la vie, de la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée, qui a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons pour que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit ici. Pour que vous ayez communion avec nous. Et que cela n'est pas merveilleux? Oui, communion. Vous savez, nous devons avoir communion les uns avec les autres. Peut-être qu'il y en a qui diraient, on n'a plus besoin d'avoir communion. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont de travers dans ces jours. Et qui déraille, et il y a beaucoup de choses qui se passent. Celui-ci veut avoir ceci, celui-ci veut avoir cela. Non, mais nous devons rester attachés à la parole de notre Seigneur. Et vous savez, il a ordonné que nous devons avoir communion les uns avec les autres. Il a commandé, et cette communion n'est pas seulement comme ça les uns avec les autres, mais comme c'est écrit, ici, il le dit ici, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons pour que vous ayez communion avec nous. Mais la communion avec nous est la communion avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses pour que notre joie soit parfaite. Et que ça n'est pas merveilleux, et que ça n'est pas glorieux, bien frères et sœurs. Vous savez, la parole de Dieu ne peut pas être changée. Elle ne peut pas non plus être mal présentée et tordue. Elle n'est pas là pour ça. Elle est si précieuse, elle est précieuse. Nous devons la croire et nous devons aussi l'employer telle qu'elle est écrite, sans la tordre. Si nous avons communion les uns avec les autres, alors nous n'avons pas seulement communion les uns avec les autres, mais cette communion les uns avec les autres est la communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Je vous le dis, bien mes frères et sœurs, nous sommes liés, unis avec tous les vrais saints et avec les vrais croyants. Nous sommes unis avec tous les croyants. Il y a des hommes qui disent peut-être oui, je crois, mais avec celui-là, je ne veux rien avoir à faire. Non, je n'ai pas de contact avec lui. Non. Cela ne devrait pas exister parmi les frères et sœurs. Mais je pense à la parole autrefois que frère Branham avait dit. Je connais beaucoup de frères, ils disaient, et peut-être que ce frère a voit les choses différemment que moi, mais malgré tout, c'est mon frère, je l'aime, je l'estime. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés frères et sœurs, car si nous aimons ceux qui nous aiment, qu'est-ce que nous faisons de particulier? Non, nous voulons rester attachés à la vraie parole de Dieu et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, que le Dieu fidèle puisse toujours plus serrer le lien de la perfection, l'amour. Et vous savez, dans ces derniers temps, les dernières heures sont là. Jean l'a déjà dit autrefois, vous, petits enfants, ce sont les dernières heures qui sont là. Et tel que vous avez entendu, qu'un antichrist viendra. Et déjà maintenant, il y a eu plusieurs antichrists en grand nombre. Bien, frères et sœurs, si autrefois déjà c'était ainsi, qu'est-ce que nous devons dire alors aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans nos jours? Oh, vous savez, les temps ne se sont pas améliorés, mais ils se sont plutôt aggravés. Mais il y a une chose que nous pouvons dire, et que nous pouvons dire avec, et nous pouvons être heureux de ce que nous mettons notre confiance dans le Dieu vivant. Je vais peut-être lire encore un verset. Mais celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Apocalypse 21. Mais bien, frères, il s'agit de vaincre. Il s'agit de vaincre. Ce qui compte, c'est de vaincre dans ces jours dans lesquels nous sommes. De persévérer. Ça ne sert à rien d'avoir fait un bon commencement. Il est dit de persévérer, de rester fidèle. Et je voudrais encore revenir à cette pensée. Et je voudrais dire, aussi les apôtres avaient fait un bon commencement. Ils avaient eu des bons jours. Et ils étaient même conservés de beaucoup de choses, épargnés de beaucoup de choses. Mais regardons quelle a été leur fin. Quelle a été leur fin avec eux? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était comme était le commencement? Non. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que cela leur a apporté? Dites-le vous-même. Lisez un peu. Comment est-ce qu'ils ont été jugés? Comment est-ce qu'ils ont été meurtris? Et persécutés, sciés, brûlés. Qu'est-ce qu'on a fait avec les apôtres? Je vous dis, aujourd'hui, c'est encore la même chose. Rien n'a changé. Ça fait que ça se détériorait et s'aggravait. Mais que loué soit notre Dieu de ce que nous, frères et sœurs, nous avons la grâce de persévérer et de vaincre pour hériter quoi? Cette gloire qui nous est préparée. Vous savez, pas quelque chose que des hommes donnent, alors nous serions pauvres. Mais quelque chose que notre Seigneur a préparé pour nous. Et c'est quelque chose qui demeure, qui a une valeur éternelle. Et nous savons qu'il est allé. Il n'a pas pour rien exprimé sa parole. Il a dit, je vais vous préparer une demeure, une place, et je reviens bientôt pour vous prendre auprès de moi. Bien, frères et sœurs, si notre Dieu a été si fidèle et a visité notre frère et l'a rencontré dans son lit de mort et lui a montré l'enlèvement et la gloire, alors je veux vous dire que c'est un signe du doigt de notre Dieu pour que nous, son peuple, nous soyons prêts pour ce jour, pour l'heure, pour le moment de son retour. Nous ne savons pas quand est-ce que cela aura lieu, mais nous voyons que tout va vers la fin. Est-ce que nous ne voyons pas que tout est en train de s'accomplir de manière merveilleuse, tout ce que l'Écriture a prédit? Est-ce que nous ne voyons pas que nous voyons-nous pas l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi, toutes ces bombes atomiques et tout ça? Nous voyons-nous pas cela? Oui, ce jour arrive, tu brûleras comme un four. Oh oui, Matthieu 24, verset 15. Et là, alors, tous se lamenteront, mais ce sera trop tard. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il y a une chose que nous voulons, c'est de ne pas voir toutes ces choses, et nous ne voulons pas toutes ces choses. Nous voulons être enlevés avant que cela arrive. Nous voulons être auprès de lui, dans la gloire, et nous voulons qu'il vienne nous prendre. Et nous devons être prêts. Et vous savez que cette foi est dans mon cœur. Je crois que Dieu le fera bientôt. Peut-être que ce sera la dernière fois que nous sommes ici rassemblés. Nous ne savons pas. Toi, tu ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas. Nous ne savons pas. Mais la mise en garde est nécessaire. Tout cela doit éveiller quelque chose en nous. Tout ce qui s'est passé, ce témoignage de notre frère aujourd'hui et ce qui lui est arrivé, nous devons nous aimer plus et nous attacher encore plus à la parole et nous tenir plus les uns pour les autres. Vous savez, c'était le commandement de notre Seigneur et ça c'est le commandement, c'est son commandement dans ces jours adressé à nous tous. Je ne sais pas, mais je peux que dire, chez nous à Krefeld, maintenant, nous avons diminué en nombre, mais je peux dire que nous sommes devenus un seul cœur et une seule âme, mes bien-aimés. Un seul cœur et une seule âme. Nous sommes heureux, nous sommes reconnaissants. Nous nous comprenons les uns les autres. Nous sommes reconnaissants pour chaque parole. Parce que nous savons que chaque parole ne vient pas d'un homme, mais vient du Seigneur. Et nous aimons chaque parole. Et nous voyons dans chaque parole, dans chaque verset que nous lisons, nous voyons notre Seigneur. Ça, le frère Branham a dit. Si nous ne voyons pas le Seigneur dans ce que nous lisons, nous devons retourner et relire ce verset jusqu'à ce que nous voyons Christ. Et dire, Seigneur, révèle-moi cette parole pour que je puisse te voir dans ce verset. Alléluia. Sa parole est inspirée, elle est esprit, elle est vie. Elle doit inonder nos cœurs dans ces derniers jours. Je m'excuse, je veux être court. J'ai voulu être court, mais j'ai pris beaucoup de temps. Je m'excuse. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous. Je me réjouis beaucoup de ce que, après un temps, j'ai pu de nouveau être parmi vous ici à Zurich. Ce n'est pas un hasard. Tout a été la conduite de Dieu. Nous prenons tout comme ça vient de la main du Dieu vivant. Et je voudrais encore vous laisser savoir. Nous sommes toujours avec vous liés et nous prions pour vous. Et c'est mon souhait que vous aussi, vous puissiez prier pour nous. Et l'église de Krefeld vous salue, vous remet ses salutations chaleureuses. L'église nous a demandé de vous saluer tous et je veux les avoir remis ici. Et je voudrais aussi repartir avec vos salutations. Que le Dieu fidèle, nous conservera tous, nous gardera tous. Nous sommes heureux et reconnaissants, bien mes frères et sœurs. Je m'excuse. Excusez ma faiblesse, je ne suis pas un grand orateur, un grand prédicateur, mais ce que je le suis pour la gloire de mon Seigneur. J'ai dit que je veux servir mon Dieu tant que je respire. Et mon frère ici, il y a un frère qui me demandait, comment est ta condition corporelle? Je dois dire une chose, tel que je vais, ça m'a, j'ai jamais été si bien auparavant. Je suis reconnaissant, j'ai été aussi opéré. J'ai eu en mars l'année dernière, j'ai eu une hernie, mais je me réjouis. Je suis heureux, tant heureux de ce que Dieu a conduit tout ici. Je suis tant reconnaissant. J'ai aussi usure du dos, usure des genoux ici et cela. Mais si je voulais commencer, mais je reste pas attaché à toutes ces choses. Je regarde le Seigneur. Je sais que il changera ce corps. Il changera aussi ton corps, même s'il est faible et s'il vieillit. Croyez cela. Loué soit son Saint-Nom. Vous savez, il est un bon Dieu. Il voit nos faiblesses, il voit nos problèmes. Mais il regarde aussi nos cœurs. Comment est notre cœur? Nous ne lui faisons aucun reproche. Nous ne voulons pas non plus demander, comme les autres disent, mais Seigneur, je veux croire, mais d'abord tu dois me guérir. Non. Bien, frères et sœurs, nous voulons croire à sa parole. Si nous voulons qu'il nous guérisse et croire qu'il est le même encore hier, aujourd'hui et éternellement, et ne pas regarder à nos faiblesses. Et n'est-il pas le même ou non? Amen, il est le même. Et il reste le même. Il ne peut pas changer. En lui, il n'y a pas d'ombre de changement. Et nous aussi, nous ne devons pas nous changer. Nous ne devons pas changer nos opinions et notre foi, l'abandonner. Question des Écritures, si quelque chose nous arrive. Mais nous savons que nous sommes gravés dans la paume de ses mains, et il a dit que personne n'est capable de nous ravir de ses mains. Personne. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Personne est capable de nous ravir de la paume de sa main. Oh, quelle grâce nous avons reçue. Bien, frères et sœurs, je vais vous dire, c'est pas à tous que cette grâce a été accordée. Non, bien, frères et sœurs, c'est seulement à ses élus que cette grâce a été accordée. Louez à son Saint-Nom. Nous sommes heureux et reconnaissants de ce qu'il nous a de nouveau bénis par sa sainte et précieuse parole. Je pense que la foi a aujourd'hui grandi en nous. Oui ou non? Je crois. À chaque fois que nous lisons sa parole, la foi doit grandir en nous puissamment. Et mon frère me disait ces derniers jours, je crois que si nous ne pouvons pas nous réunir, alors nous serions allongés là et nous vieillirons et nous serions encore, nous affaiblirions. Mais quand nous nous rencontrons, quand nous pouvons nous rassembler, alors nous retrouverons de nouvelles forces et un nouveau courage. Pas que nous soyons en train de nous encourager nous-mêmes. Non, c'est la parole de Dieu qui nous accorde un puissant encouragement. La parole de Dieu nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Il est celui qui nous secourt. Oui, cette parole est si précieuse, comme nous l'avons lu, comme c'était écrit dans Michée. Hein, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, éviter cela. Nous devons remercier le Seigneur de ce que, ici, nous pouvons regarder à lui et lui faire confiance, comme on a lu dans Matthieu, dans Michée 7, verset 7. Notre Dieu nous a secourus, et il nous exaucera. Et il continuera à le faire. Il nous a exaucés, il continuera à le faire. Que son nom soit loué. Amen. Courbons les têtes un moment. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici cet après-midi à qui le Seigneur a parlé et qui veut consacrer sa vie à Dieu. Nous savons tous que le temps va vers sa fin. Les signes des temps le disent. Et bientôt, la dernière heure sonnera, le dernier jour sonnera. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que quelqu'un est ici, alors que toutes les têtes sont courbées, et que tous les yeux sont fermés, et que tous les cœurs sont ouverts, et que nous sommes devant, ainsi devant le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait être introduit dans cette prière? Levez rapidement les mains et vous pouvez de nouveau les rabaisser. Merci, 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 merci. Que Dieu bénisse, merci, merci. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Prions. Père céleste, de tout mon cœur, je te remercie de ce que c'est encore le temps de la grâce et que tu parles encore et que tu appelles encore et que tu agis encore, car la nuit approche où plus personne ne pourra travailler. Ô Dieu, alors celui qui est impur restera impur. Et celui qui est saint se sanctifiera encore plus. Ô fidèle maître, ce temps est sûrement court devant nous, est très proche, mais je te remercie très particulièrement de ce que tu m'as accordé assez de force pour en ce jour être ici. Tu as vu les mains qui se sont levées et les cœurs, ô Dieu. Tu sais comme nous le pensons. Tu connais nos pensées. Nous voulons te servir comme nous le pouvons et montrer à beaucoup d'autres le chemin qui mène à toi. Fais de nous des pêcheurs d'hommes, des gens qui gagnent des âmes, des hommes que tu peux utiliser, que tu peux bénir et être une bénédiction pour les autres. Oh Seigneur, que ton évangile glorieux soit encore propagé et annoncé et prêché sur toute la terre pour que la fin puisse venir et que personne ait une excuse. Nous te remercions pour cet après-midi, pour les versets bibliques, pour la parole que nous avons écoutée. Paul disait dans sa faiblesse, dans la faiblesse il a été semé, mais ce qui a été semé dans la faiblesse ressuscitera avec puissance. Adoration et gloire soient à ton Saint-Nom.
Amen.